VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. La guerre contre Boko Haram, les troupes du Tchad et du Niger poursuivent leur offensive contre le groupe islamiste dans le nord-ouest du Nigeria, fief des insurgés. Ces opérations sont en cours depuis le 8 mars. Élection nigériane maintenant, la secrétaire d'État adjointe américaine chargée des affaires africaines est attendue aujourd'hui au Nigeria à la veille des présidentielles et législatives dans le pays, Eddie Isango.
Linda Thomas-Greenfield conduira la mission diplomatique officielle d'observation des élections générales nigérianes du 28 mars. Pour les départements d'État, ces déplacements de Mme Thomas-Greenfield révèlent l'importance que Washington attache à ces élections nigérianes. Les autorités américaines disent suivre de très près la crise dans ces géants de l'Afrique de l'Ouest. Washington voudrait, par cette visite, donner un exemple de l'appui qu'il apporte au processus électoral au Nigeria en vue d'un scrutin crédible et pacifique. Sur place, la secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines aura des entretiens bilatéraux avec les 14 candidats qui briguent les postes du président de la République au Nigeria. La situation sécuritaire préoccupante causée par la présence du groupe islamique Boko Haram sera aussi au centre de ces entretiens. Déjà, le président Barack Obama a appelé lundi les Nigériens à voter samedi dans les calmes et à ne pas suivre ce qui appelle à la violence.
Toujours concernant la lutte contre Boko Haram, notre envoyé spécial au Niger, Idriss Fall, est à Difa, dans l'extrême sud-est du pays, où les séquelles des récentes attaques du groupe islamiste contre la localité se font encore sentir, bien que les autorités fassent tout pour promouvoir un retour à la normale. Au micro d'Idriss, écoutons le gouverneur de Difa, Yakubu Soumanagao.
Les cours ont repris, les enseignants sont sur place, les élèves aussi. Et nous avons demandé aux enseignants de voir comment se sacrifier pour rattraper le temps perdu au moins un mois. Les enseignants à l'unanimité ont accepté de faire le sacrifice pour organiser des cours de remédiation et de rattrapage le mercredi et le samedi. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, les élèves seront en mesure d'affronter les examens session 2015.
Il y a des enseignants qui n'ont pas répondu présent.
Les enseignants qui n'ont pas répondu présent, le premier ministre chef du gouvernement, lors de son passage, a été très ferme. Il a demandé de remplacer systématiquement tous les enseignants qui ne sont pas revenus. La ministre de l'Éducation aussi a été très claire là-dessus. Et nous avons demandé à tous les inspecteurs de nous faire la situation des présences et des absences pour qu'on remplace rapidement tous ceux qui ne sont pas là.
Au plan sécurité, j'ai constaté qu'il n'y a pas une seule moto dans Difa. Pourquoi?
Oui, bon, ça c'était une mesure. Les activistes de Boko Haram utilisaient les motos pour faire des attaques ou encore venir placer des bombes. C'est pourquoi nous avions demandé au niveau de toute la région de déposer les motos jusqu'à nouvel ordre. C'est des mesures d'ordre sécuritaire.
Et ma dernière question porte sur le poivron et le poisson. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont adoptées à ce niveau-là pour la vente et la commercialisation?
Là aussi, nous avons interdit formellement le mouvement du poisson et du poivron juste parce que ça ne profite qu'aux gens de Boko Haram. Ils prennent du poivron de force avec les populations. Ils ont des complices qui partent leur vendre ce poivron et ce poisson pour leur faire un ravitaillement ou encore leur envoyer de l'argent pour acheter les armes. Et c'est pourquoi nous avons interdit formellement la vente du poivron et du poisson.
Le gouverneur de Difa, Yakubu Soumanagao. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a présenté des excuses à ses compatriotes pour les exactions commises par son gouvernement et ceux l'ayant précédé. C'était lors d'un discours au Parlement hier sur l'état de la nation. Timothée Donangmaï.
Parmi les actes de violence ayant émaillé l'histoire du Kenya, le président Kenyatta a cité les affrontements post-électoraux de 2007-2008, le massacre en 1984 de Kenyans d'ethnie somali, des meurtres non élucidés et diverses injustices. Selon l'agence Associated Press, il a informé les législateurs avoir instruit le ministre des Finances de créer un fonds de 110 millions de dollars qui sera utilisé dans des initiatives de justice restauratrice sur les trois prochaines années. En remettant son rapport au président Uhuru Kenyatta en mai 2013, la commission Vérité et Réconciliation du pays lui avait accordé 6 mois pour présenter ses excuses aux Kenyans. Ce document avait épinglé, entre autres, le chef de l'État kényan lui-même et son vice-président pour les violences post-électorales de 2007-2008.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Conflit au Yémen. Des avions de la coalition menée par l'Arabie Saoudite continuent pour un second jour consécutif leurs frappes aériennes au Yémen contre les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran. Particulièrement visés des cibles militaires à Sanaa, la capitale et ses environs. Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche appuie les alliés arabes dans leur offensive contre les rebelles chiites houthis. Et puis en Suisse, négociateurs américains et iraniens continuent aujourd'hui à Lausanne leurs discussions dans le cadre du dernier round de pourparlers sur le programme nucléaire de l'Iran. Les parties ont jusqu'au 31 mars pour conclure un accord cadre. Pour sa part, le président iranien Hassan Rouhani a lancé une offensive diplomatique exceptionnelle en appelant et en envoyant des lettres aux dirigeants des grandes puissances, dont le président américain Barack Obama, pour pousser à un accord sur le nucléaire iranien. Jacques Aristide.
Des coups de fil personnels à nombre de leaders mondiaux, le chef de l'État iranien a appelé un par un les présidents russes Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, français François Hollande et le premier ministre britannique David Cameron. Objectif, mettre tout son poids dans la balance à J-4 de la date butoir du 31 mars, fixée par les négociateurs pour aboutir au minimum à un accord cadre sur le nucléaire iranien. D'après l'AFP, Hassan Rouhani a également envoyé des lettres aux dirigeants de tous les pays du groupe P5+1, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne. La Maison-Blanche a confirmé qu'une lettre avait été remise à la délégation américaine à Lausanne. Téhéran cherche l'annulation totale des sanctions internationales qui asphyxient l'économie iranienne.
Résultat de la multiplication des zones de conflit dans le monde, notamment en Syrie et en Irak, un nombre record de demandeurs d'asile dans les pays développés. Le point avec Michel Joseph.
Le rapport 2014 du HCR estime qu'il y avait l'année dernière 866 000 nouveaux demandeurs d'asile pour les 44 pays les plus riches au monde, ce qui marque une augmentation de 45% par rapport à 2013. L'agence note qu'en 2014, ce chiffre était le plus élevé depuis la guerre en Bosnie-Herzégovine qui avait poussé des centaines de milliers de personnes sur le chemin de l'exil. Selon le HCR, 150 000 des demandes, soit un cinquième des demandes d'asile vers les pays industrialisés, provenaient de la Syrie, avec en deuxième position les Irakiens, puis les Afghans, les Serbes et les Érythréens. Selon les données 2014, l'Allemagne était le pays le plus convoité, avec 173 000 demandes, dont un quart étaient des Syriens. Les États-Unis arrivaient en deuxième place, avec plus de 120 000 demandes d'asile, provenant principalement du Mexique et d'autres pays de l'Amérique centrale.
Et maintenant, la minute économique avec Jean-Roger Bion.
En RDC, l'exposition de produits Made in Congo a refermé ses portes hier jeudi à Lubumbashi. Et une résolution a été prise de renforcer les femmes entrepreneurs locales. Les présidents des petites et moyennes entreprises du Katanga définissent les défis à relever par les femmes. François Moutuilé.
Les femmes ont beaucoup de défis à relever afin que l'intégration régionale leur soit favorable. L'accès au marché intérieur, la sous-traitance, l'accès au crédit, la formation des entrepreneurs afin que leur niveau managérial soit élevé aux standards requis.
François Moutuilé au micro de nos confrères des Radio Capi. L'insécurité due à Boko Haram et à la crise centrafricaine, combinée à la chute des cours des matières premières, plombe les économies de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les dernières prévisions de croissance de 2015, établies mercredi entre 4,2 et 4,3%, confirment une tendance à la baisse persistante observée depuis fin 2014.
Il s'agissait plutôt d'Eddie Isango. Et nous terminons avec le crash de l'Airbus de la compagnie allemande Germanwings qui a fait 150 morts cette semaine dans les Alpes en France. Les autorités françaises affirment que le copilote de l'Airbus a délibérément écrasé l'avion contre le flanc d'une montagne. Le procureur de Marseille, Brice Robin, a annoncé cette conclusion hier lors d'une conférence de presse. Il affirme que les éléments sonores montrent que le copilote a verrouillé le cockpit de l'avion de ligne alors que le pilote était sorti avant de modifier manuellement les commandes pour envoyer l'appareil en descente finale à 700 km à l'heure. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info.